In 500 meters, go straight, and then go straight.
Entre les pages. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre les pages, votre émission qui parle du monde des livres en Anjou. Depuis près de 7 années, j'ai exploré tout ce qui se fait en matière de livres en Anjou. Mais peut-être par snobisme, j'ai laissé de côté un territoire particulier, celui de la littérature de genre. Une littérature souvent qualifiée de facile, légère, qui n'a bien entendu rien à voir avec la littérature blanche, celle des lecteurs cultivés. C'est pourtant passé sous silence rien moins que Tolkien, Bram Stoker, Mary Shelley, Stephen King, Giorgio Serbanenko, Simenon, Jules Verne, Maurice Leblanc et tant d'autres. Alors, au risque de faire rougir l'invité du jour avec ses références d'illustres, je tente de combler un vide. Le genre, il le fréquente depuis son tout premier roman, paru en 2015, Mort au Grand, une uchronie. Bonjour Pierre Léauté.
Bonjour Luc.
Et bienvenue dans l'émission, comme je l'ai dit dans mon introduction, le genre littéraire dans Entre les pages, cela reste un tout petit satellite. Mais avec vous, l'occasion est trop belle. Vous vous frottez à tellement de genres que vous allez me permettre de combler un vrai vide. Et vous m'offrez l'opportunité d'en parler avec la publication de votre dernier roman, Le Haut Mal. Mais avant d'en parler, ce serait bien que l'on fasse connaissance. Bien que vous ayez déjà publié 15 romans, je crois.
Alors, un petit peu moins, là, c'est mon 11e.
11 romans,
ouais.
Ah bon, ciel, aurais-je mal compté. quand même, 11 romans en 10 ans, là j'ai bon.
Alors, techniquement, mon premier livre a été publié en 2005, donc on va dire que je suis depuis 20 ans dans la partie.
Bon, alors, toutes mes informations sont erronées, on va pouvoir, ça va mettre en doute mes qualités de documentation. Bien donc que vous ayez publié 11 romans en 20 ans, ce n'est pas votre métier, vous faites quoi dans la vie?
Alors, mon beau métier, celui d'enseignant en histoire, géographie, un petit peu plus loin du côté de Savenay, en Loire-Atlantique, et également enseignant en géopolitique.
Enseignant en géopolitique?
Et oui, en classe de première.
En classe de première, on fait de la géopolitique? C'est-à-dire qu'on apprend à nos jeunes la géopolitique?
On apprend à nos jeunes la géopolitique.
C'est super ça.
Oui, c'est super intéressant. Donc ça fait partie des quelques spécialités qui sont offertes aujourd'hui.
Et dans l'époque actuelle, il y a de la matière là, sur la géopolitique, non?
Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler.
oui, c'est vrai. En fait, de quoi je parle? on va aller plutôt, alors on va sortir de l'enseignement, je ne sais pas si on y reviendra, mais dans un autre moment tout à l'heure. On va plutôt essayer de vous comprendre, de vous connaître plutôt. Est-ce que vous avez un souvenir de vos premières lectures?
De mes premières...
Je parle des premières, hein. Alors vraiment petit. Hein.
Un souvenir précis, je n'aurais peut-être pas... J'ai plutôt un souvenir précis de ma volonté d'écrire. C'est ce qui... L'angoisse d'oublier ce que je voyais dans la petite lucarne, dans le téléviseur. L'angoisse de ne pas retenir et la volonté justement d'écrire ce que je voyais. Je n'étais pas bien vieux. Hein, j'avais déjà 6-7 ans. Et voilà, mes parents n'avaient pas forcément l'argent pour avoir un magnétoscope. À ce moment-là, c'était encore assez cher. Donc, c'était vraiment l'objectif de retenir ce que le temps filait. Voilà. Et puis, c'est comme ça que j'ai écrit, quand j'étais assez petit, mon premier dictionnaire de mythologie. Donc, voilà, je m'étais amusé. J'avais repéré tous les éléments qui faisaient trait à toutes les mythologies. Et voilà, on s'ennuie beaucoup l'été.
Oui, mais c'est très sain l'ennui. C'est une des plus belles activités qui soit, l'ennui.
Oui, c'est vrai. L'ennui procure beaucoup de choses et permet au cerveau de vagabonder et d'imaginer pas mal de très belles histoires.
Mais là, vous avez échappé à la question que je vous ai posée, un souvenir d'une première lecture, quand même. Un titre.
Alors, oui. L'un des livres qui m'a le plus marqué très longtemps, c'était Les Trois Mousquetaires.
Bien, déjà dans le genre, hein,
et l'épée. Et voilà, déjà, j'étais dans le genre, j'étais déjà avec un personnage féminin un peu diabolique, Milady, qui elle-même flirtait un petit peu avec le mystère, la magie. Donc déjà, voilà, ça m'a beaucoup, beaucoup bercé. Et puis, le cinéma ensuite est venu et m'a engagé vers cette voie-là.
Mmh. Alors, souvenir de lecture, souvenir important de lecture, souvenir marquant de lecture, Les Trois Mousquetaires.
Oui.
Dans toutes vos lectures, jusqu'à l'âge adulte, on va dire, quelle autrice ou auteur vous mettriez au-dessus de tout, enfin, pour vous, qui est important. D'ailleurs, à n'importe quel âge de votre vie, quel auteur pour vous est très important, vous le mettez au-dessus de tout.
Alors, Maupassant, alors là, aussitôt, je m'inscris dans une veine fantastique, très traditionnelle française. Maupassant a une sensibilité, une écriture très, très précise. Un sens du portrait, très, très aigu. Ça m'a beaucoup marqué. Sa capacité à brosser non seulement des portraits, mais également à parler de sentiments. Sentiments qui sont parfois proches de l'indicible, proches de l'impalpable. Parler de la peur, de l'épouvante, sentiment qu'on partage tous. Donc oui, ce serait cette réponse-là.
Sur votre table de chevet, il y a quel livre aujourd'hui?
Beaucoup de bandes dessinées.
Oui, mais ça en fait partie. Il faut rendre tous les honneurs à la bande dessinée. Et donc, quelle bande dessinée, justement?
C'est une très bonne question. En ce moment, je suis dans une vieille série qui a maintenant une vingtaine d'années qui s'appelle Niklo Skoda. Et d'ailleurs, par Facebook, j'ai pu contacter le dessinateur et lui dire toute l'admiration que j'avais pour son travail.
Donc, Maupassant, là, comme référence, un peu en termes d'ailleurs d'écriture, ouais. Parce que malgré tout, c'est imparable, Maupassant. Enfin, voilà, c'est si on veut lire une belle écriture, ben on va vers Maupassant.
Le beau est très très important.
Et puis, l'ouverture qu'il a donnée à certains champs, à certains thèmes, alors certainement au regard de sa vie un peu trouble et qu'il l'a conduit dans des affres pas possibles.
Faut-il être torturé pour bien écrire?
Qui sait? en littérature étrangère, il y a des gens qui sont importants pour vous?
En littérature étrangère, on avait Christopher Priest qui a écrit le Prestige.
Oui.
Notamment, j'ai eu énormément de chance de dédicacer à ses côtés. Je crois que c'était aux Utopias à Nantes. Voilà.
Ah, quand même, hein, de la classe.
Oui, j'ai eu des petits moments comme ça, chanceux. Oui, mais... j'ai pu côtoyer certains grands noms. Mmh. Et c'est des moments rares. Mmh. Voilà, je me rappelle de Pierre Bordage, je pense à lui également.
Oui, qui vient de quitter.
Il y a très très peu de temps, mais sa littérature, lui, ne nous quittera pas.
Mmh. Mmh.
Donc, je suis heureux de pouvoir côtoyer dans ce milieu qu'on appelle la SFFF, la science-fiction fantastique. Je suis heureux de côtoyer de grands personnages qui donnent à la littérature d'autres lettres de noblesse. On va peut-être en parler après, qui permettent aussi de découvrir d'autres champs, d'explorer d'autres univers. Voilà, on parle de littérature de genre et on a des personnes en France qui sont bien vivantes et qui sont talentueuses et c'est important d'en parler.
Mmh. Alors, juste une question avant. Quand on est assis à côté de Christopher Priest, dans un salon, enfin... Et qu'on voit la file de gens qui dédicacent et que soit on est à côté, est-ce qu'on n'a pas un petit coup de blues de temps en temps?
Alors, c'est une belle leçon pour l'ego.
Oui.
Je me rappellerai tout le temps, j'en ai parlé plusieurs fois, je me rappelle tout le temps que j'avais vécu aussi avec Pierre Bordage. Il n'était pas encore arrivé parce qu'il était ailleurs, il y avait une petite conférence. Bon, bref, donc, moi j'étais bien à ma place, très très scolaire. Bon, voilà, il n'y avait pas grand monde devant moi. Par contre, pour Pierre Bordage, il y avait du monde qui attendait. Il n'était pas là, mais ça attendait déjà. Donc voilà, mais ça permet non pas d'être mis à sa place, mais ça permet de, oui, de se dire, bon, voilà, on a une carrière à mener et c'est très bien, c'est très bien. Non, non, il n'y a vraiment aucune espèce de jalousie.
Alors, vous parliez là juste à l'instant des auteurs importants français dans la SFFF.
Oui.
On vient de parler de Pierre Bordage, qui est effectivement un des piliers. Enfin, oui. Ça reste quand même une référence importante. Il y en a quelques autres, hein, enfin, qui sont d'ailleurs, qui sont morts. Hein. Il y a, je pense, à Pierre Boulle, entre autres. Enfin, il y en a quelques-uns.
Oui.
Robert Merle, qu'on ne peut pas oublier. Mais pour vous, il y aurait qui d'autre encore comme, qui est-ce que vous, dans la littérature de genre, dans ces genres-là, il y aurait qui comme grands auteurs nécessaire.
Dans les auteurs nécessaire, c'est un grand mot. Dans les grands auteurs qui seraient intéressants à découvrir, il y a beaucoup de noms. Hein. Mm-hmm. Et c'est pas forcément que des copains, que des copines. Hein, c'est voilà. Je pense à Estelle Fay. Mm-hmm. Je pense alors il y a de tout. Je pense à Jean Crou qui a une belle écriture. Il y a Morgan Cossario aussi hein, qui écrit très très bien. C'est toujours un moment intéressant, les salons littéraires. Là, la saison va repartir bientôt. et c'est toujours agréable de côtoyer ces personnes.
Si on regarde votre bibliographie, on retrouve de l'Uchronie, de l'histoire,
oui.
De l'ASF, du techno-roman.
Oui.
Et ben, qu'est-ce qui fait lien entre tous ces genres aussi spécifiques quand même ? Parce qu'il y a la littérature de genre, mais dans la littérature de genre, il y a des genres. Et vous allez sur tous les genres, en fait. Hein.
Alors, le lien primaire qui va unir une thématique très, très, très générale qui va unir tout ça, c'est mon souci d'étudier l'homme, la femme, bien sûr. Brosser, bah, justement, comme j'essaie de le faire péniblement avec mes moyens, comme au passant, brosser... un petit peu ce tableau des relations humaines, donc quel que soit un petit peu le tableau sur lequel on peint, quelle que soit la palette des couleurs qu'on va pouvoir utiliser, c'est ça que je vais étudier. Donc je vais étudier des sentiments, je vais étudier des relations qui sont parfois complexes, m'emparer de personnages qui peuvent paraître antipathiques ou difficiles au premier abord, mais c'est ça qui fait la vie, c'est ça qui fait le charme des relations humaines.
Oui, et l'actualité nous le montre encore aujourd'hui. Oui. Donc là, il n'y a pas, comment dire, souvent les auteurs dans ces littératures-là s'inscrivent dans un chemin qu'ils poursuivent, enfin qu'on soit dans la fantasy, qu'on soit dans la SF, on est toujours, c'est des gens qui tracent un peu une route. Vous, l'option, elle n'est pas tant le genre...
Non.
Que la possibilité d'explorer l'âme humaine.
C'est ça. Depuis le début, je ne voulais pas m'enfermer dans une formule. Voilà. Alors, j'ai pu faire effectivement de la littérature très, très uchronique, par exemple, très, très étudiée sur le plan historique. Mais avec d'autres ouvrages, j'ai pu étudier, j'ai pu faire un roman paysan. J'ai fait également un peu de théâtre. J'ai travaillé pour faire un feuilleton sur téléphone, je fais des petites nouvelles, enfin, beaucoup de choses, parce que j'ai envie de toucher un petit peu à tout. Et je me dis que voilà, ce serait dommage de ne pas essayer. Voilà, certains de mal. Alors évidemment, bon, mais quand il s'agit de traiter d'histoire, je suis un petit peu plus à mon aise. Mais l'idée, c'est de sortir de sa zone de confort. Et c'est important. Après, j'essaie de faire de mon mieux à chaque fois, puisqu'on laisse son prénom et son nom sur la couverture. Et la première chose, la première marque que l'on laisse, c'est ça. Donc il faut faire attention à bien travailler, quel que soit le champ dans lequel on peut errer.
Pierre Léauté, c'est un pseudonyme ?
Non, non, ça vient de Loyauté. Mmh. Non, non, c'est un...
C'est votre vrai nom ?
C'est mon véritable nom. Je me suis posé la question ou non, et puis je me suis dit, bon... Ah, c'est pas le pire des noms possibles. Donc...
Voilà. Non, mais il marche bien.
Voilà.
Alors justement, on en vient à un titre dans votre bibliographie qui est très particulier.
Oui.
Il y a ce « Retour à la taverne ».
Oui.
Celui-ci dénote dans tout cet ensemble.
Complètement, oui.
Comment il situe ce roman-là par rapport au roman de Bernard Clavel, Malataverne.
Alors, pour réexpliquer un petit peu l'histoire, donc, à la base, Malataverne, c'est un roman publié en 1960 par Bernard Clavel qui voulait explorer un fait divers, donc à savoir trois gamins qui font des bêtises et notamment ils organisent le cambriolage d'une vieille grand-mère, un cambriolage qui se passe très mal puisque l'un des garçons souhaite arrêter, stopper tout. Ça se passe très mal puisqu'à la fin, je ne vais pas spoiler parce que l'œuvre maintenant a quand même 66
oui.
ans.
Oui,
donc
oui, je pense
bouchez-vous
que
a... les oreilles si
oui.
vraiment...
Non, je pense que dans toutes les boîtes à livres, il y a un Malataverne, de toute façon.
Et donc, ça finit mal puisque l'un des adolescents, malheureusement, vient à tuer l'un de ses copains. Donc, je me suis toujours demandé à la fin de ce premier ouvrage, qui était un conte un peu moral. Ok, c'est très bien, il a fait quelque chose de terrible, voler c'est mal, tuer c'est encore pire... Mais qu'est-ce qui se passe une fois qu'il part en prison ? Et moi, cette question m'a hanté depuis les années 90. Alors, je me suis dit un jour, bon, ben, on va écrire la suite. Alors, j'ai écrit tout d'abord la suite sans avoir le premier accord de la veuve de Bernard Clavel, en priant très fort qu'ensuite elle me dise oui. Évidemment, au pire, j'aurais changé les noms des lieux, mais c'était dommage parce que le mot Malataverne est on va dire c'est un peu emblématique. Et donc, je me suis dit, OK, donc il va passer du temps en prison. Il va passer ses 16 ans en prison. Et je le fais ressortir en 1976. Alors, évidemment, c'était intéressant parce que c'était à la fois... il a passé la moitié de sa vie en prison. Et en plus, il sort un été un peu particulier pour ceux qui s'en rappellent, puisque c'était l'été de la canicule. Et donc, c'était intéressant de le voir revenir dans cette campagne, de le voir surtout hériter de l'endroit où il a commis son crime à la taverne. Dans un été où les esprits vont s'échauffer.
Mmh. Alors ça, c'est... et là, on n'est plus dans la littérature
du
de
tout.
Genre, on est dans ce qu'on appelle la littérature blanche, donc ouais. La plus honorable qui soit.
Et oui, revenu du côté oui, clair de la force.
moi, je l'ai lu avec extrêmement d'intérêt, parce que vous avez collé ouais. au roman... de Bernard Clavel, mais vraiment collé au roman de Bernard Clavel. On retrouve les personnages, on est dans la géographie, enfin, on est presque, il y a presque les virages de l'endroit.
J'ai fait une carte oui. topo, en fait. J'ai lu et relu le premier bouquin,
oui.
et l'idée, c'était, voilà, donc j'ai tout repris, je me suis fait ma propre carte des lieux. Et oui, je voulais reprendre tous les personnages qui étaient intéressants.
Oui, bah, oui, puis tout est... On est alors, ça fait penser, moi, ce roman, celui que vous avez écrit, je parle pas de Malataverne, mais celui que vous avez écrit m'a refait penser, parce que je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, à L'été en pente douce de Pierre Pelot.
Oui.
On est dans un climat presque identique, sombre, au fond de la campagne. Enfin, c'est très, 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 très...
Ça évoque la maison assassinée, ça évoque oui. L'été en pente douce.
Oui.
Voilà.
Oui, oui. Oui, 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 on est là-dedans. Est-ce que ça pourrait être vu comme un exercice de style, ce roman-là ?
Alors, c'en est un, et puis c'est évidemment très cinématographique. J'ai écrit, alors, pour mon plaisir, j'ai écrit le script télé aussi. Alors, s'il y a des amateurs...
s'il y a des maisons de production qui écoutent, il y a un synopsis qui existe.
Il est prêt. Ah, ben, oui. Mais oui, ce sont des personnages qui m'ont happé. Il y a une part de moi qui a envie d'écrire la suite, un petit ouais. peu plus tard. Ouais. J'ai envie d'avoir le héros qui n'aurait là plus 32 ans, mais qui aurait 75-80 ans et toujours revenir sur Malataverne.
Toujours revenir à Malataverne.
Ouais.
Ouais. Et bien là, ça va, on a bouclé la première partie de cette rencontre. Oui, oui, le temps passe vite. On va continuer cette conversation après cette pause musicale.
Est-ce que tu peux me border, me donner du miel chaud et me chanter les étoiles? Dis-moi si le feu va brûler entre les pierres toute la nuit ou dans mon cœur bleu pâle. J'ai les mains froides, le sang de rien, où es-tu qui plaît, te reviens. S'il te plaît, n'éteins pas. Je suis là, dans un coin de toi. N'éteins pas, je suis là, creux de ma main. Viens, petit oiseau, je te promets, tout ira bien. On n'a qu'à coller nos idées cassées ensemble, ça va marcher, on ira très loin. Plonger les côtes de la beauté, se refaire une santé, écouter les pas entre les sapins. S'il te plaît, viens.
Nouveau titre de Mathilda Monique, ça s'appelle Miel Chaud, elle y chante en français. Avec cette production minimaliste, ces bruits de fond, elle nous fait entrer au cœur de sa musique. Et vous êtes bien sur Radio G, c'est Entre les pages, votre émission qui parle du monde des livres en Anjou. Et je reçois aujourd'hui Pierre Léauté. Dans la première partie de cette rencontre, on a pu entendre d'où est né chez vous ce goût pour l'écriture. On parlera plus longuement dans la troisième partie de votre dernier roman, Le Haut Mal. Mais j'aimerais qu'on entre maintenant dans l'atelier de Pierre Léauté.
Ah, l'atelier.
Je l'ai dit, vous êtes professeur d'histoire et de géographie. Alors, rappelez-nous, c'est quel lycée ? C'est même pas en Anjou, c'est de l'autre côté de la frontière.
Oui, vers le Mordor. Non, c'est...
Le Mordor, j'aime beaucoup ça, avec une présidente de région qui jette des ombres sur la culture.
Oui, tout à fait. Non, c'est Savenay. Savenay. Et c'est le lycée à Saint-François d'Assise, un très beau lycée tout neuf.
Voilà, donc à Savenay. Et puis, il n'y a pas que l'histoire, hein, quand on est enseignant d'histoire. C'est la géographie, et puis vous nous l'avez dit aussi, la géopolitique que je découvre avec joie qu'on enseigne cette matière-là. Je trouve que c'est génial qu'on enseigne cela. Prof,
oui.
C'est un métier prenant.
Très prenant.
Donc, l'écriture, c'est quand pour vous ?
C'est l'une de mes différentes occupations.
Oui.
C'est quand ? C'est un peu plus la nuit. Alors, c'est à la fois tout le temps et jamais. C'est tout le temps parce que forcément, on réfléchit toujours à de nouvelles idées. Et puis, c'est jamais parce qu'effectivement, le temps coule vite. Donc, c'est un peu plus la nuit que l'écriture va venir.
Mmh. Vous avez une vie de famille ?
J'ai une vie remplie. J'ai une vie remplie. Puis je suis également président d'association dans le poker en plus. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses.
Ah oui. Donc effectivement, il faut trouver les espaces de l'écriture. Vous écrivez sur quel support ?
Alors,
le smartphone, le clavier d'ordinateur.
Sur mon ordinateur, voilà. Ouais. Je vais donner la marque sur mon Mac.
Oui, mais ça c'est. Vous en reviendrez, vous savez, avec en géopolitique, vous avez appris que la carte du monde bouge beaucoup, donc
mais
on
oui.
reviendra
ah,
du
mais,
Mac.
Ah, mais c'est bien possible, mais pour le moment, tant qu'on est là, dans ce monde-là, non, oui, j'écris beaucoup sur ordinateur, après, pour des questions pratiques, c'est intéressant. Après, voilà, je reste en alerte tout le temps. Je suis vigilant devant les afflux d'idées qui peuvent venir. Et
justement, puisqu'il faut rester en éveil, guetter, attraper l'idée quand elle vient, ça se fait par prise de notes sur un téléphone ?
Ça veut dire des fois demander à sa femme, lui demander de noter en catastrophe sur son téléphone une idée pendant que l'on peut conduire. Voilà, non, mais oui, c'est... vous demanderez ça à n'importe quel artiste, il n'y a pas de règle en la matière. Donc l'idée peut venir, surgir, s'envoler aussi vite qu'elle est venue, et on l'oublie, on est bien triste. Mais oui, on essaie de... Enfin voilà, j'essaie de noter parfois par-ci par-là quelques idées qui, pour la plupart du temps, ne serviront à rien, ou qui le lendemain matin n'auront plus aucun intérêt. Voilà.
Bah oui, c'est les heures et malheurs des auteurs. Ça.
Et oui.
Votre laboratoire d'écriture, il est où dans votre maison ?
Alors, j'ai une pièce qui est dédiée aux livres, j'ai une bibliothèque, voilà. Donc, là, c'est vraiment l'endroit à rêver pour ceux qui aiment les bandes dessinées, les romans, les ouvrages. Donc, voilà. Il y a de tout. Il y a du métal hurlant, il y a de la bande dessinée belge, franco-belge. On a du roman classique, du roman de genre. Enfin, voilà. Si un jour personne ne me voit plus, c'est que je suis effondré sous les ouvrages de ma propre bibliothèque dans ma maison.
Ah là là, ça serait les conséquences de la bibliothèque de Babel de Borges qui aurait envahi tout.
Voilà, je n'ai pas encore le volume d'ouvrage d'Umberto Eco, bien sûr.
Donc, dit-il modestement. Bon, on prend les images qu'on peut. Hein.
C'est souvent l'image qui vient de la bibliothèque, oui. Absolument faramineuse. Oui. Voilà, donc c'est vrai, c'est un rêve que de posséder autant de volumes. Non, mais... Oui, voilà, j'ai une petite pièce à moi, j'ai un petit secrétaire et je m'y actuelle ponctuellement pour essayer d'écrire.
Dans cette bibliothèque, il y a combien de bouquins à peu près ?
Très bonne question. Je crois, alors, les livres en soi, il doit y avoir un petit millier et les bandes dessinées, 2500.
Ah oui, quand même, ça commence à prendre de la place. Hein.
Ça pèse une tonne, littéralement.
Ah voilà. Oui. Bon, donc ça, c'est l'atelier d'écriture. Ouais. Vous écrivez en silence ou en musique ?
En musique. Ah. En musique. On parlait juste avant de retour à la taverne. La musique est ce qui va nourrir le feu intérieur, qui va permettre de nourrir des sentiments. Et ces sentiments, ces passions qui vont permettre d'insuffler au personnage de la vie, de donner au dialogue plus de corps. Alors, des fois, la musique peut être surprenante dans son choix. Par rapport à la thématique, dans le cas de ce roman paysan qui était Mala Taverne, j'écoutais plus du R&B qu'autre chose parce que ça, il y avait une certaine force, une certaine colère qui se dégageait et que ça permettait de nourrir le personnage.
Donc du R&B, deux artistes que vous utilisez quand vous travaillez en musique, je parle, bien évidemment.
Alors Damien Seize.
Ah, on en a parlé tout à l'heure, qui figure sur l'introduction de The Eight List.
Voilà, qui à mes yeux est un véritable poète, un parfait génie de l'écriture, voilà, qui mérite d'être plus écouté encore qu'il ne l'est. Je sais qu'il est très connu, mais voilà, à ceux qui ne connaissent pas, penchez-vous un petit peu sur le bonhomme. Et puis, j'aime beaucoup la musique de film aussi, donc voilà, tout ce qui peut nourrir la thématique, la passion, le feu qui permet à l'artiste, à l'écrivain...
Parce que se mettre Damien Seize dans les oreilles quand on écrit, quelqu'un qui a déjà une écriture très enflammée, très habitée, ça ne parasite pas, ça ne pollue pas l'esprit,
non. En fait, c'est pas tant la musique ou les paroles, c'est le souffle, c'est la mélodie. C'est-à-dire que chaque artiste a sa propre musique, sa propre mélodie. On parle du flow également. Voilà. Mmh. Et ça, c'est intéressant aussi pour la littérature, qu'elle soit généraliste ou qu'elle soit de genre. On doit avoir une rythmique, une mélodie, une musique qui coule et ce qui va permettre au lecteur de se laisser emporter. Et c'est vrai que ça permet effectivement d'avoir de la musique, l'écouter en même temps. Non, ça me transporte plus qu'autre chose.
Le roman, chez vous, il naît de quoi ?
Une très bonne question. Il naît de quoi ? C'est une horreur d'écrire. Voilà.
Quoi ?
Eh oui, c'est horrible.
C'est une torture ?
Ah, c'est une torture.
Ouais.
C'est une torture puisque, alors déjà, c'est l'épreuve de la solitude, du début presque jusqu'à la fin. Bon, là, on est là tous les deux, c'est bien, on peut parler. Mais c'est un moment rare, c'est dans la surface. Là, on est dans la surface, on va dire, émergée de l'iceberg. Mmh. Mais l'iceberg, il est bien plongé dans des eaux froides et tumultueuses qui sont faites de recherches, de moments de doute, alors de moments d'écriture, de réécriture. Alors, c'est super qu'on peut vraiment partager et donner au monde l'ouvrage en question et le partager. Mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est un véritable travail, un sacerdoce qui s'empare de vous, qui s'empare de tout ce que vous êtes. Donc c'est vrai qu'il y a des moments, mais voilà, pendant plusieurs mois, je ne vais penser qu'à un ouvrage. Et ce qui est terrible, c'est que quand on est dans le moment un peu de la promotion, on est parfois déjà sur un autre texte, un autre projet. Et en tout cas, pour ma part, c'est difficile parfois de faire la promotion d'un texte sur lequel je n'ai peut-être pas tiré un trait, mais en tout cas, je suis passé à autre chose parce que je suis sur une autre émotion.
Vous attaquez directement l'écriture ou vous faites d'abord un travail de recherche et de documentation ?
Tout dépend du projet. Là, par exemple, dans le cas de mon dernier ouvrage, il était question de science et de géologie. Donc, il était important pour moi de ne pas dire n'importe quoi, effectivement. Donc, on va dire que tout dépend de l'entame et de l'accroche. Je trouve ça bien de se lancer. Alors, ma démarche peut être... la démarche est particulière. Je me lance le plus souvent. Ensuite, je me rends compte, je me heurte à un premier mur qui est... Alors, à un moment donné, on va arrêter de faire n'importe quoi et on va avoir quelque chose de bien pensé, de bien...
Structuré,
architecturé, voilà. Donc là, on peut rentrer dans une phase plus accrue de recherche. Mais c'est effrayant aussi parce que j'aime bien me laisser porter par l'histoire et même par les personnages. Je n'ai pas forcément la fin en tête lorsque je me lance. Alors, pour Malaterra, c'est un peu particulier. Là, du début jusqu'à la fin, je savais précisément où j'allais. Mais la plupart du temps, c'est je me laisse porter aussi. Et le livre, c'est fou, mais le livre apparaît de lui-même. Le chemin apparaît. C'est inexplicable, oui. Mais la voix apparaît et l'intrigue finalement se résout d'elle-même.
L'écriture comme un exercice spirituel.
Peut-être, ouais.
Est-ce que vous êtes besogneux quand vous écrivez ?
Alors, qu'est-ce qu'on entend par besogneux ? Laborieux
que, oui, laborieux, qui... besogneux, ça ne surgit pas d'un coup, c'est pas
alors,
lumineux d'un coup.
Le premier jet est souvent assez accompli, mais par contre, l'écriture est lente. Donc, pour vous ayez un ordre d'idée, en mots, j'aime bien compter en mots,
oui.
Si je fais une session de 400 mots, 500 mots, je suis très content. Voilà, donc j'ai une écriture qui est assez lente, mais par contre qui sera assez accomplie directement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas reprendre, évidemment, qu'il ne faudra pas couper, retravailler un petit peu, mais c'est plus à la marge. Mmh.
Qui est votre toute première ou tout premier lecteur ?
C'est ma femme. C'est ma femme qui ne mâche pas ses mots, mais qui sait souvent mettre le doigt là où ça fait mal aussi, là où j'ai quelques progrès à faire, où il y a quelques petits manques. C'est important d'avoir ce recul-là, même 20 ans après, parce que c'est vrai que mine de rien, ça fait déjà 20 ans. C'est important d'essayer toujours d'aller vers le mieux. Alors, qu'est-ce que c'est que le mieux dans l'art ? Ça, c'est une très bonne question. Mais en tout cas, c'est important d'essayer de, peut-être pas de plaire, mais en tout cas d'avoir le texte ou le ton le plus juste.
Est-ce que vous avez recours à une correctrice ou à un correcteur professionnel ?
Ça, c'est fourni par les services de mes différentes maisons d'édition.
Quand on vous lit, on note immédiatement une impressionnante richesse lexicale. Impossible de faire la liste des mots très précis, parfois inusités,
oui.
Voire certains étaient inconnus par moi. J'ai dû me replonger dans les dictionnaires pour les retrouver. Quel rapport vous entretenez avec les dictionnaires ?
Un rapport très très éloigné. Je pense qu'il y a, un vieux papy qui sommeille en moi et qui me souffle des mots. Là aussi, on est de l'ordre de l'inexplicable et du spirituel. Des choses viennent, alors peut-être qu'elles surgissent parce que j'ai beaucoup lu, effectivement, beaucoup lorsque j'étais un petit peu plus petit, mais c'est de l'ordre de l'inexplicable. Les choses viennent, alors effectivement, pour d'autres choses, je peux vérifier certaines occurrences. Dans mon dernier livre, je me suis permis une petite excentricité, j'ai créé un mot. Alors, c'est ce qu'on appelle un apex. Le apex, c'est lorsque l'auteur va imaginer un mot. Pour le moment, ça n'est qu'un apex. Le apex va devenir un néologisme si un jour un autre auteur s'empare du même mot.
Oui, oui, oui.
Voilà. Mm-hmm. Donc, le mot en question, oui. C'est néambuler. Donc, c'est comme déambuler, mais là, voilà.
Mais le mot est magnifique. Enfin, voilà. Il est magnifique. Enfin, faut en créer d'autres, quoi.
Alors, donc, si un auteur, là, en France,
oui,
s'empare du mot, écoute, l'utilise là.
Oui.
Ça va devenir un néologisme. Et peut-être que je serai moi-même dans le dictionnaire.
Ah là là, quel rêve.
Quel rêve.
Ben, je vous propose une nouvelle pause musicale qui ne devrait pas vous déplaire, mais on va d'abord écouter. vient d'écouter, c'était The Flicker. Alors, quand j'ai dit qu'il ne devrait pas vous déplaire, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans The A-List, vous faites référence à un groupe qui s'appelle Bliss. Ouais. Et en faisant mes recherches, j'ai trouvé un Bliss qui ferait du métal. Bon, je me suis dit, hein, cet homme aime le métal, donc je vais programmer du métal. Et The Flicker, le titre qui vient d'être programmé là, c'est un groupe qui vient de sortir un nouvel album qui s'appelle The Flicker. Donc je me suis dit, ça va lui plaisir. Hélas, non, c'est qui The Bliss ?
Alors The Bliss, c'est le nom d'un groupe pop rock. Voilà, j'ai une ancienne collègue enseignante qui fait partie de ce groupe et qui chante à Saint-Nazaire. Voilà, donc qui avait composé pour ce bouquin une petite chanson sur la haine, car c'est le thème de ce livre là.
Alors voilà, c'est la documentation. Quand on essaye de construire un cheminement d'interview, on essaye de l'alimenter, et puis des fois les pistes sont fausses et finalement elles donnent des chocs de culture. Alors c'est un choc de culture aussi pour l'émission, parce que j'ai pas l'habitude de programmer ce type de cette esthétique musicale-là, mais c'est pas très grave, je n'en rougis pas, j'en suis même plutôt fier. Je rappelle quand même que cette programmation musicale ne serait pas possible sans l'incontournable Shabada et sa magnifique newsletter. Vous écoutez toujours Entre les Pages, et ce n'est que sur Radio G que vous pouvez écouter à Angers et dans sa région sur le DAB+. Aujourd'hui, c'était une conversation avec Pierre Léauté que je vous invite. Nous parlons maintenant de son dernier roman, Le Haut Mal. Je vais vous faire l'exercice toujours délicat. Présentez-nous ce roman.
Le Haut Mal, c'est un roman qui se passe en 1923. Le héros Paul, qui est un vétéran de la Première Guerre mondiale, qui est apprenti séismologue, découvre dans les archives de l'Institut de physique de Strasbourg un vieux document qui, étrangement, donne les coordonnées précises des séisme à venir. Peut-on prévoir un tremble-terre, comme on appelait ça à ce moment-là ? C'est un petit peu toute la question. Et on va voir dans ce Haut Mal, on va voir dans ce roman une expédition qui va se monter pour aller vers les Pyrénées, puisque les Pyrénées sont une région très sismique. Et dans les années 20, d'étranges tremblements de terre ont lieu. Des tremblements de terre qui ont lieu à des périodes trop parfaitement symétrique pour être naturel. Et effectivement, il y a peut-être une présence maléfique qui rôde là-haut, un monstre, le Haut Mal.
Alors là, vous avez donné des éléments, on va venir sur les détails. Alors, on va pas question ici de divulgâcher, parce que ça serait pas drôle du tout. Déjà, j'ai l'impression que vous vous êtes fait plaisir géographiquement. Vous êtes allé dans les Pyrénées et j'ai l'impression que vous êtes sensible aux Pyrénées.
Très, très sensible. Alors oui, depuis tout petit, je connais bien cette région. C'est une région de cœur pour moi. Je voulais lui rendre hommage. Je m'étais pas mal demandé, mais comment parler des Pyrénées que j'aime. Je voulais évoquer également la montagne dans le fait qu'elle s'ouvre au monde moderne, à la science. Et les années 20, c'était intéressant. Et la sismologie ici n'est pas qu'un prétexte, mais en tout cas c'est une porte d'entrée pour parler de ces populations qui n'étaient pas arriérées, pas du tout, au contraire, mais qui étaient très superstitieuses. Donc je voulais interroger la place de la foi, de la religion, confrontée un peu au fracas moderne d'un monde qui change, d'un monde qui a connu déjà une guerre mondiale, d'un monde qui voit la science prendre de plus en plus de place. Et il y a beaucoup de thématiques que je voulais travailler, mais effectivement, en premier lieu, je voulais rendre hommage à la belle chaîne des Pyrénées.
Ce roman, à son démarrage, s'inspire d'une histoire vraie, d'un fait divers vrai.
Oui.
C'était quoi ce fait divers ? Parce que, en plus, c'était quoi ce fait divers ?
Alors, ce fait divers, il s'agit d'un autocar. Quand je dis autocar, il faut imaginer une grande berline, une grande voiture, ouverte au niveau du toit, avec une vingtaine, voilà, donc 23 touristes hollandais qui s'en revenaient du cirque de Gavarnie, qui descendaient pour aller à Lourdes retrouver leur train, mais ceux qui descendaient un petit peu vite. Et malheureusement, c'est un véritable fait divers, cet autocar a versé dans le gouffre de l'échelle. Donc il faut imaginer une chute de 70 mètres. Et c'est une chute mortelle pour tout le monde, sauf pour un survivant. Et bon, survivant, il va lui arriver quelque chose dans l'ouvrage. Mais effectivement, on a ce fait divers un petit peu macabre, mais qui a servi de toile de fond, en tout cas de toile de départ.
Mmh. C'est dans ce roman, il y a deux images, et pas des images métaphoriques, mais des images, des vraies images. Hein. Il y a, parce qu'on se dit un autocar dans les années 20, qu'est-ce que ça signifie ? Vous apportez la preuve qu'il y a des autocars dans les années 20, puisque vous en mettez une photo dedans.
Alors, la photo, oui. Donc, je tenais, alors c'est la première fois que je fais ça, je tenais à placer le texte, même un peu romanesque, romancé, même teinté de fantastique, dans un cadre, un contexte historique aussi. Mm-hmm. Pour qu'on ait la surprise à la fin de ce premier chapitre de se dire « Ah, zut, tout ça, c'est un peu vrai aussi. » Ça a vraiment eu lieu.
On y pense beaucoup d'ailleurs. Hein. Au cours de la lecture, on pense beaucoup à cet événement primal en fait, oui. Hein, dans le roman. On y pense beaucoup parce qu'on fait les liens. Enfin, voilà. Et puis, vous avez construit, vous avez mis l'accident dans une situation particulière. C'est important, les éléments de véracité dans une fiction.
Je ne sais pas si c'est important. Moi, en tant qu'historien, j'avais peut-être envie de m'emparer quelque chose d'un peu plus véridique. C'est un flash forward, pour être précis, pour donner les termes scénaristiques précis. Donc ça veut dire que c'est une scène qui se passe un petit peu plus tard dans le roman, mais c'est intéressant de la mettre en exergue, déjà parce que ça fait un petit peu impressionnant, et puis aussi parce que c'est constitutif de ce qu'est le mal sans en dévoiler. Mais oui, c'est important de dire... De parler des villes, de parler des cagoux, de ces personnes qu'on mettait un peu de côté, de parler des Pyrénées, de la manière dont on pouvait vivre là-haut, de parler des paysans aussi, parler des touristes. Donc je me suis emparé de toutes ces populations qui s'agrégeaient dans les Pyrénées.
Mmh. Alors est-ce qu'on peut dire que ce roman, on peut le lire à trois niveaux ? Il y a le carnet ou le guide de voyage. Avec vous, on sait tout sur la vallée entre Lourdes et Gavarnie.
Oui.
Le roman fantastique et le roman aventuro-scientifique à la Jules Verne.
C'est complètement ça. Voilà. Et puis une réflexion sous-jacente à la place de la foi, à la place de la religion. Donc oui, je voulais à la fois évidemment un récit d'aventure. Donc là aussi, m'inscrire dans une veine fantastique française. Alors, pas la prétention de me comparer à Verne, surtout pas, mais en tout cas de m'inscrire dans ce filon. Et puis aussi d'aller un petit peu aussi vers la littérature de genre, mais un fantastique pas forcément lourd, pas forcément irréalisable, inconcevable. Alors, pour ceux pour qui ça parlera, vers la fin, on se dirige vers un final plus lovecraftien.
Voilà, j'allais citer Lovecraft parce que c'est évident que Lovecraft est quelque part dans la résolution que vous proposez. Hein.
Parce que ici, c'est un roman qui parle de violence, alors qu'il parle de la violence à travers des vétérans qui ont du mal à vivre l'après. Et on parle de la violence de la nature, la violence de la montagne aussi, qui est constitutive un petit peu de ce que sont les montagnes, pas seulement les Pyrénées. Donc la violence, elle est partout. Elle est d'abord humaine avant d'être naturelle. Et on a ces violences-là qui vont se confronter, ces expéditions qui vont essayer de gravir, de comprendre le pourquoi des choses, le pourquoi de la nature, le pourquoi du au mal. Bon, souvent, la violence ou le mal qu'on essaie de percer à jour, on le transporte souvent un petit peu en soi, et c'est un petit peu le cœur thématique de ce roman.
Mmh. Alors, il y a un événement aussi déclencheur du roman, cet accident, mais il y a aussi, alors vous nous apprenez des choses, hein, il y a la naissance de l'Institut de physique du globe, on est en 23.
Oui.
Vous êtes allé piocher comme ça, il vous fallait de la matière, et je parlais de véracité tout à l'heure, là on est dans la véracité, on est à Strasbourg, hein, c'est ça, hein.
Oui.
Ouais. Cet élément-là qui est historiquement vrai, c'était important d'aller détailler, de donner de la véracité en fait, au roman. Hein.
Oui, parce que les lecteurs sont souvent très très sensibles à ça. Pour un autre texte qui est un peu plus ancien, qui s'appelle « Les temps assassins », j'étais allé jusqu'à me demander, ok, dans un zeppelin, les verres étaient constitués de quelle matière ? Donc, ils sont en aluminium ou ils sont faits d'une autre matière. Voilà. C'est ce niveau-là de détail qui m'intéresse parce que c'est ce niveau-là de détail qui fait que l'ensemble tient. Souvent, lorsque le lecteur s'empare d'un livre, il peut décrocher parce que finalement, ça ne lui paraît pas vraisemblable ou trop loin de lui. Et ce sont ces petits détails-là qui font que le tout tient.
Alors, en nous présentant l'Institut, la création, la naissance de l'Institut de physique du globe, ben vous nous emmenez vers Le Pendule de Foucault. Et là, je ne parle pas de Umberto Eco, du roman de Umberto Eco, encore qu'il en parle lui dans ce roman-là. Mais vous nous parlez de scientifiquement Le Pendule de Foucault. Enfin, vous nous rappelez un peu. Et la technologie qui s'est mise en œuvre à l'époque.
Oui, tout à fait. Alors, pour moi, ça a été très compliqué parce que je suis vraiment de formation très littéraire. la science, voilà. Mais encore une fois, sortir de sa zone de confort, c'est important. Donc, j'ai dû apprendre beaucoup de choses. Je me suis renseigné, j'ai contacté d'anciens directeurs de recherche ou d'observatoire. J'ai lu, voilà. Donc, écrire, c'est d'abord lire, hein, souvent. Mm-hmm. J'ai lu et puis je suis venu sur place. Hein, au centre de sismologie aussi, il y en a un qui est très bien, qui est très, très pédagogique à Lourdes. En face du funiculaire du pic de Gers. Donc voilà, il n'y a pas de mystère pour n'importe quel ouvrage ou presque. Il y a un travail de recherche et de documentation ici, certes, qui est un peu plus poussé, mais voilà.
Qui est quand même très poussé, hein. Mais c'est passionnant. Enfin, c'est pas illisible, c'est pas incompréhensible.
Il y a des personnes qui m'ont ouvert la porte de leur maison, qui m'ont montré leur carte postale. J'ai la petite fille de l'ancien propriétaire de l'hôtel d'Angleterre que j'aborde, qui était à Cotteray, qui m'a ouvert ses portes et qui m'a montré toutes ses archives. Donc, c'est effectivement, je suis allé assez loin pour obtenir ce niveau de véracité, en tout cas, j'espère.
Alors, pour que un roman de cette nature fonctionne, il faut nécessairement un groupe et un groupe suffisamment hétéroclite pour pouvoir fabriquer des situations multiples.
Oui.
Comment vous l'avez constitué, ce groupe ? Comment cet ensemble de personnes assez particulier, quand même, comment vous l'avez fabriqué ?
Alors, je voulais avoir un vétéran de la Première Guerre mondiale. Je voulais avoir une femme qui paraisse faible au premier abord et qui ne l'est surtout pas. Je voulais traiter de la question du colonialisme. Donc, ça, c'est une surprise. Le lecteur verra après. Et puis, j'adore les méchants. Donc, je me suis amusé à écrire une espèce de simili Rasputin. Et puis, j'ai un mercenaire également. Il s'appelle Victor Hansern, qui est très, très, très méchant. Très impressionnant avec la partie inférieure de la mâchoire qui est complètement métallique.
Et des gueules cassées de 14-18. Bah, oui.
Donc, je m'amuse beaucoup. Et c'est effectivement cette collision entre différentes personnalités, c'est ça qui va faire que des fois on va se rappeler d'un livre.
Alors, ce roman, il est intéressant parce que, alors, on reconnaît le professeur de géographie. Les chapitres commencent par le lieu, la hauteur du lieu. Enfin, c'est vraiment ça vient d'où cette idée d'avoir écrit toutes ces têtes de chapitres un peu comme
ça. Parce que j'aime bien que le fond et la forme se répondent pour presque chacun de mes livres. Par exemple, pour un livre précédent qui s'appelle The Hate List, où le héros crée une liste de haine où vous mettez sur une application les 8 noms des gens que vous aimez le moins, eh bien, le livre est conçu pour suivre la liste même du héros. Et on commence par le chapitre 8 et on finit par le premier chapitre. Donc, à rebours, on suit la liste. Donc, même chose pour le Homal. Eh bien, l'idée, c'était d'être toujours dans cette thématique, d'être proche de la nature. Donc oui, à chaque fois, j'ai référencé le contenu géologique des terres, j'ai indiqué l'altitude, et je m'amuse même en dédicace parfois, selon l'endroit où je suis, à mettre l'altitude. Voilà, ça va plutôt loin parfois.
Alors, pour les passionnés des Pyrénées, mais pas que des Pyrénées, mais pour ceux qui aiment les Pyrénées, mais tout particulièrement Lourdes, Cotterêts, Gavarnie, s'ils lisent ce roman, vous en détaillez tous les lieux. On peut le prendre comme un guide de voyage, véritablement. Hein. On peut suivre la carte, enfin vous suivez la carte au millimètre. Hein,
oui.
La montée, par exemple, vers le lac de Gaude, qui est quand même une montée un petit peu fatigante. On imagine les gens à l'époque qui sont allés jusqu'au lac de Gaude. Ça devait être une sacrée expédition. C'est vraiment un guide de voyage. Alors, on va terminer cette conversation avec une dernière question. Vous avez quel roman, Chantier ?
Alors, peut-être pas un roman. Alors là, bon, c'est de la radio, mais je montre à l'animateur un petit texte qui s'appelle « Les bons sentiments », paru chez les éditions 1115 au mois de mars. Et c'est un petit texte qui... je peux vous faire le pitch, hein, si vous voulez.
Oui, allez-y.
Je ne sais pas si vous voyez des bracelets qui servent à traquer des espèces animales qui sont protégées. C'est-à-dire qu'on achète pour 15 euros, 20 euros un petit bracelet et on peut suivre un animal à l'autre bout de la planète. Ben, je me suis dit, c'est super. Et si on faisait pareil avec les êtres humains, et si on parrainait comme ça à l'autre bout du monde un être humain, et si le parrain devenait le parrainé, et si l'Américain moyen républicain dans l'État d'Ohio, qui pensait être le plus bienveillant au monde et accorder sa richesse comme ça, et bien si c'était lui qui devenait l'endetté et le parrainé.
Oh,
et ça va très 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 loin. Donc c'est un texte qui s'appelle « Les bons sentiments ».
Alors un tout petit.
Ah ouais, c'est une petite nouvelle. Elle est très 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 caustique, très très fun.
30 pages.
Ah oui.
30 pages. Eh bien, merci, c'est une exclusivité. J'ai une exclusivité à la radio.
Voilà. Mais oui.
Eh bien, écoutez, je vous remercie, Pierre Léauté, d'être
merci
venu
beaucoup
jusqu'à Radio G. Je vous souhaite un bon retour chez vous et à bientôt, sans doute, pour de nouvelles aventures. Et entre les pages, c'est fini. Quel dommage. Comme d'habitude, un petit coup d'œil sur l'actualité du monde des livres en Anjou. Le 5 février, au cinéma Saint-Charles à Ingrandes, venu de Bernard Stora autour de « Dans le cercle rouge », livre qui raconte le tournage du grandiose film de Jean-Pierre Melville, dont il a été le premier assistant, et c'est animé par notre ami Julien Védrenne. Le vendredi 6, donc le lendemain, dans l'infatigable librairie Lériot, venu de Olivier Lelay, grand traducteur devant l'Éternel, il viendra pour une rencontre et une lecture autour des Buddenbrock de Thomas Mann, qu'il vient de retraduire après avoir traduit l'immense Berlin Alexanderplatz d'Alfred Döblin. Et ça, c'est un conseil de l'ami Alexandre Seurat. Et le samedi 7 février, le Repère des héros accueille TM pour son tout nouvel album « Les grandes personnes ». TM que j'accueillerai prochainement. Et Terreur graphique pour l'album « L'addiction, s'il vous plaît ». C'est à partir de 15h et il faut réserver auprès de la librairie comme il se doit. Et enfin, sortie du nouveau numéro de la toujours belle et élégante revue Bout du Monde, qui a pour thème Voyage à pied. Si vous n'avez jamais lu cette magnifique revue, et ben c'est le moment, vous allez dans toutes les bonnes librairies, vous la trouverez. Au cours de l'émission, vous avez entendu Flickr, dédié à Pierre Léauté, qui s'est énervé avec Paralyzed, et Mathilda Monique qui a chanté Miel chaud. Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les Pages sur le site de Radio G à la date de l'émission. Le prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 11 mars. En fait, je vais dire 11 février, ça serait mieux. Donc le prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 11 février à 17h avec une rencontre avec Karim Katan et Sophie Coiffier, tous deux en résidence à la maison Julien Gracq. Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de RFI et puis votre magazine Topette animé par Pierre Benoît. Je vous souhaite une excellente soirée et maintenant...
In 500 meters, go straight and then go straight.
Générique.
Le temps pète au visage des passants, au nombre des printemps qui s'allongent. Le temps bourre au milieu des fanfares qui rythment la vie des nénuphars. Le temps dresse les uns contre les autres au sein d'étreintes qui disparaissent. Le temps pis quand ce n'est pas si grave, les regrets n'ont pas voix au chapitre. Et même quand le soleil brille, le temps est toujours plus vieux. Tant mieux, tant mieux. Le temps dit qu'on ne doit pas le perdre, même s'il fait un sale temps de merde. Le temps gage que les marins présagent le naufrage d'un homme à la mer. Le temps danse dans les pas de la mode qui défie les podiums en cadence. Le temps d'aime qui s'élance sur la longue route des vacances comme une flemme. Et même quand le soleil brille, le temps est toujours plus vieux. Tant mieux, tant mieux. Même quand le soleil brille, le temps est toujours plus vieux. Tant mieux, tant mieux. Même quand le soleil brille, le temps est toujours plus vieux. Tant mieux, tant mieux. Même quand le soleil brille, le temps est toujours plus vieux. Tant mieux, tant mieux.